Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu, pour la fête de la Sainte Famille. Les mages s'étant retirés, voici qu'un messager du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit
« Lève-toi et prends le petit enfant et sa mère et fuis en Égypte. Sois là jusqu'à ce que je te dise, car Hérode est sur le point de chercher le petit enfant pour le tuer. »
Lui s'étant levé, il prend le petit enfant et sa mère de nuit et il se retire en Égypte. Et il y est jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse la parole venant du Seigneur Dieu par la bouche du prophète. « D'Égypte, j'ai appelé mon fils. » Alors Hérode, voyant qu'il a été joué par les mages, est dans une extrême colère. Il envoie tuer tous les enfants qui sont à Bethléem et dans tout son territoire, âgés de 2 ans et moins, selon le moment qui s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit la parole du prophète Jérémie, disant « Une voix se fait entendre dans Rama, pleurs et plaintes nombreuses. Rachel pleure ses enfants et ne veut pas être consolée parce qu'ils ne sont plus. » Hérode étant mort, voici qu'un messager du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et dit
« Lève-toi et prends l'enfant et sa mère et va en terre d'Israël. » Car ils sont morts ceux qui cherchaient la vie du petit enfant.
S'étant levé, il prend le petit enfant et sa mère et il entre en terre d'Israël. Ayant entendu qu'Archélaos règne sur la Judée à la place de son père Hérode, il craint d'y aller. Averti en songe, il se retire dans la région de la Galilée. Il vient habiter dans une ville appelée Nazareth, pour accomplir la parole dite par les prophètes, qui sera appelé Nazoréen.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Voilà des passages de l'Évangile qui peuvent nous paraître un peu étranges et peut-être mal adaptés à cette fête de la Sainte Famille. La liturgie n'a d'ailleurs retenu que les passages concernant l'Égypte. Elle a sauté par-dessus l'épisode macabre de la tuerie de Bethléem. Mais comment ces textes peuvent-ils nous parler aujourd'hui? C'est ce que nous essaierons de voir.
Où se situent ces passages dans le récit de Matthieu?
Bien, notre texte fait partie des 2 premiers chapitres du récit de Matthieu, chapitres qui sont consacrés à l'enfance de Jésus. Après la généalogie et l'annonce à Joseph, il y a donc là 4 épisodes qui sont chaque fois illustrés par des textes bibliques anciens et qui vont situer Jésus dans l'histoire de son peuple. Ces 4 épisodes, la visite des mages, la retraite en Égypte, le massacre des innocents et le retour en Galilée. Eh bien, parcourons les 3 épisodes d'aujourd'hui pour en comprendre les détails et ensuite nous essaierons de retenir le sens profond de ces textes.
Un messager du Seigneur apparaît en songe.
Oui, selon la mentalité de l'époque, le songe est un lieu propice aux interventions de Dieu, peut-être parce que dans l'état de sommeil, la conscience, le cerveau, perd le contrôle de ses pensées, et que cette conscience est ainsi plus disponible à laisser les pensées divines s'imprimer en elle.
Fuis en Égypte.
Oui, traditionnellement, l'Égypte est la terre de refuge pour les habitants de Palestine. Autrefois, pendant la grande famine du temps de Jacob, les tribus juives y ont immigré. Et c'est aussi de cette terre d'Égypte que les tribus partiront pour rentrer dans la terre promise sous la conduite de Moïse, 1200 ans avant Jésus.
Hérode s'apprête à chercher le petit enfant pour le tuer.
L'épisode d'image nous dit l'inquiétude d'Hérode lorsqu'il apprend de ces étrangers que sont les mages qu'un roi des Juifs vient de naître. Et dans les circonstances de l'époque, eh bien, la chose n'est pas invraisemblable. En effet, il y a de nombreux courants religieux qui attendent la venue d'un libérateur. Dieu va se choisir un homme selon son cœur, un Messie, qui sera chargé de purifier le peuple et de le libérer du joug des Romains. Et comme Hérode doit sa couronne à l'empereur de Rome, eh bien, c'est normal qu'il craigne ce futur roi qui vient de naître.
D'Égypte, j'appelai mon fils.
La retraite, si on peut dire, de Joseph et de la famille en Égypte va donc durer jusqu'à ce que le Seigneur Dieu appelle son fils. Eh bien, Matthieu se sert ici d'une citation du prophète Osée au chapitre 11. Et cette citation n'est pas complète. De même, et pourtant elle devait être bien comprise de ses auditeurs ou de ses lecteurs. De même qu'il nous suffit d'énoncer les souridances pour qu'aussitôt on complète le proverbe par « quand le chat est sorti », eh bien de même l'évocation d'une partie d'un verset biblique appelle la partie qui le complète. Et ça c'est traditionnel dans les Écritures. Alors il faut donc compléter la phrase et prendre tout le verset « quand Israël était enfant, je l'ai aimé, et d'Égypte j'appelais mon fils. Quand Israël était enfant, je l'ai aimé. » Par ce verset est évoqué le temps de l'exil des tribus juives en Égypte et surtout l'extraordinaire expérience qu'Israël fera au désert lors de son exode. C'est en effet au désert que Dieu va sceller une alliance avec son peuple en lui donnant les 10 grandes paroles de la Torah. L'exode dans la foi juive, c'est vraiment le grand signe de l'amour de Dieu pour Israël. Mais c'est aussi, d'ailleurs, le signe de l'amour de Dieu pour chaque Israélite de tous les temps. À chaque Pâques, pendant le repas du Seder, les Juifs se redisent ce que la Mishnah, qui est un commentaire de la Bible, disait « En chaque génération, on doit se regarder soi-même comme sorti d'Égypte. » Par l'évocation de ce verset d'Osée, Matthieu souligne donc que Jésus vit, comme tout Israélite, l'expérience de l'Exode, dans son fond, dans son sens profond. Et comme chaque membre et comme tout le peuple, eh bien Jésus va être appelé fils de Dieu. Tu avais dit d'ailleurs à Pharaon, mon fils premier-né, c'est Israël, laisse aller mon fils. Cette évocation de l'Exode, elle laisse entendre aussi qu'Hérode est le nouveau Pharaon qui cherche à décimer le peuple de Dieu. On sait que dans les textes de l'Exode, on apprend que le Pharaon voulait arrêter la croissance d'Israël. En effet, face à la servitude qu'il vivait sous la domination des Égyptiens, Israël, on pourrait dire, pratiquait la revanche des berceaux. Et cela inquiétait les Égyptiens parce que les Israélites devenaient trop nombreux. À travers les siècles, cet épisode avait pris un autre sens. On lui avait donné d'autres motivations. Le texte de Flavius Joseph, qui est un historien juif du 1er siècle, nous révèle le motif de la fureur du Pharaon.
Un autre événement poussa davantage les Égyptiens à exterminer notre race. L'un des scribes sacrés annonça au roi que chez les Israélites était né quelqu'un qui rabaisserait la suprématie des Égyptiens et relèverait les Israélites. Une fois parvenu à l'âge d'homme, il surpasserait tous les hommes en vertu et s'acquerrait une renommée universelle. Effrayé par la vie de ce personnage, le roi ordonna de mettre à mort tous les enfants mâles qui naîtraient aux Israélites.
On voit donc que le rapprochement peut être fait avec la fureur du pharaon, son angoisse et sa décision de mettre à mort tous les enfants mâles parce que un enfant va naître qui va relever Israël. Donc pour un contemporain de Jésus, l'attitude d'Hérode à la suite de la visite des mages peut être mise facilement en parallèle avec celle du pharaon à la naissance de Moïse.
Alors Hérode, voyant qu'il a été joué par les mages, est dans une extrême colère. Il envoie tuer tous les enfants qui sont à Bethléem et dans tout son territoire, âgés de 2 ans et moins.
Oui, est-ce que cet événement est vraiment historique, puisque l'histoire contemporaine n'en parle pas? En tout cas, il est fort plausible, car le personnage d'Hérode est en effet un personnage très cruel. Son règne avait commencé par le meurtre de 45 membres du Sanhédrin, le grand conseil juif, en l'an 37 avant notre ère. Puis Hérode fit étrangler sa femme, Marianne, noyer son gendre et tuer 3 de ses fils, dont l'aîné, qu'il fera tuer 5 jours avant de mourir. Et à la veille de sa mort, il ordonna de tuer au moins une personne par famille afin qu'il y ait des larmes à ses funérailles. On prête même ce mot à l'empereur de Rome, « Mieux vaut être le porc d'Hérode que son fils ». Et en effet, Hérode ne tuait pas de porc pour en manger, puisque c'était interdit par la Torah. Mais ce massacre de Bethléem fait donc inévitablement penser à l'ordre du pharaon, qui avait fait jeter au fleuve tous les nouveau-nés mâles des Juifs. La douleur, qu'arrache tant de cruauté, eh bien, elle va être évoquée par un autre texte biblique. Il s'agit là d'un texte de Jérémie au chapitre 31. Rachel, qui est l'ancêtre des tribus d'Éphraïm et de Manassé, pleure ses descendants qui ont été tués par l'envahisseur ou qui sont rassemblés à Rama pour partir en exil à Babylone. Peut-être que le choix de ce texte de Jérémie pour évoquer la cruauté, la douleur des parents de ses enfants de Bethléem, ce choix a été favorisé par le fait que certaines traditions situaient le tombeau de Rachel à Bethléem. Mais toujours, ce qui importe ici, c'est de montrer l'actualité de ces textes, la continuité dans le malheur et dans l'oppression. Quelque différentes que soient les situations et les époques, ce qui est permanent, c'est la cruauté des dominants et des puissants. Et on pourrait dire qu'à la suite de la Shoah, eh bien, on entend encore le chant de deuil et de détresse de Rachel qui monte vers Dieu. Mais aussi, dans les charniers de Bosnie, du Cambodge ou d'Afrique, eh bien, c'est toujours Rachel qui pleure ses enfants et qui ne veut pas être consolée.
Lève-toi et prends l'enfant et sa mère et va en terre d'Égypte, d'Israël. Car ils sont morts ceux qui cherchaient la vie de petit enfant.
Oui, voici donc venue l'heure du retour, de la rentrée dans la terre d'Israël. À travers Jésus, le Fils premier-né de Dieu, eh bien, c'est l'évocation de toutes les libérations. Celle de la sortie d'Égypte avec Moïse, celle du retour des déportés de Babylone en 538, celle que Jésus fera en sortant de ce monde pour entrer dans la terre d'éternité, celle que fait spirituellement tout Israélite tout au long de sa vie, celle de chaque disciple du Christ lorsqu'il revient vers son Seigneur, lorsqu'il se convertit. Il se peut que Matthieu évoque ici d'ailleurs le texte d'Exode au chapitre 4.
Le Seigneur dit à Moïse, « Retourne en Égypte, car ils sont morts ceux qui en voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme et ses enfants, les installa sur l'âne et retourna au pays d'Égypte.
Peut-être que l'âne, que nos peintures de la fuite en Égypte de Joseph comportent, qui ne se trouve pas dans l'Évangile, est peut-être venu de ce rapprochement avec le texte de l'Exode. Mais le rapprochement peut continuer d'ailleurs, car les traditions rabbiniques mettaient ce texte que nous venons de lire en relation avec un autre texte du prophète Zacharie au chapitre 9, qui parle d'un Messie humble et monté sur un âne. Écoutons ce texte rabbinique.
Le dernier libérateur agira comme le premier. Que fit le premier libérateur? Il est dit. Alors Moïse prit sa femme et ses fils et les installa sur l'âne. De même en sera-t-il du dernier libérateur, humble et monté sur un âne. Ayant entendu qu'Archélaus règne de sur la Judée à la place de son père Hérode, il craint d'y aller. Averti en songe, il se retire dans la région de la Galilée.
Oui, eh bien, à la mort d'Hérode, c'est son fils qui est nommé ethnarque, et il va commencer par essayer de dompter une guerre civile. Il va le faire en massacrant 3000 juifs. Aussi cruel que son père, il est vite déposé à la demande des juifs et des samaritains. Il finira ses jours dans la ville de Vienne, en Gaule, la France actuelle. Aussi, Joseph va-t-il choisir de se retirer dans la Galilée. Alors, la Galilée est aussi un lieu très symbolique, c'est le carrefour de peuples où se côtoient juifs et païens. La Galilée allait de Tyr et Sidon à l'ouest jusqu'à la Décapole et à Damas à l'est en passant par le mont Hermon. Elle était donc un pays frontière avec les peuples voisins qui étaient des païens. Elle était aussi, selon la tradition, considérée comme une terre messianique. Ce serait le lieu où se rassembleraient tous les exilés, revenant vers Israël, dans la terre d'Israël, autour d'Élie, le précurseur du Messie. Eh bien, on sait que c'est dans cette terre de Galilée que Jésus va faire sa mission. Il s'y adressera aux brebis perdues d'Israël, selon son expression, mais avec de fréquentes incursions en territoire païen. Et c'est aussi en Galilée que Jésus ressuscité donnera rendez-vous à ses disciples pour une dernière consigne, aller faire disciples toutes les nations. On peut penser donc que les premiers chrétiens après Pâques verront dans ce choix de la Galilée comme une sorte d'option de Jésus pour une ouverture radicale de son Église aux païens.
Il vient habiter dans une ville appelée Nazareth pour accomplir la parole dite par les prophètes, qui sera appelée Nazoréen.
Eh bien, Nazareth devait être une toute petite bourgade, car aucune des cartes de l'époque, aucun des textes ne parle de Nazareth. Le terme de Nazoréen, lui, ne se trouve pas non plus dans les livres des prophètes. On trouve ce nom attribué à Jésus dans quelques passages des récits évangéliques. Matthieu, par exemple, l'a employé à nouveau lors du reniement de Pierre. Celui-ci était avec Jésus le Nazoréen. Dans le récit de Jean, les gardes qui vont arrêter Jésus à Gethsémani déclarent qu'ils cherchent Jésus le Nazoréen. Toujours en Jean, l'écriteau de la croix est rédigé « Jésus le Nazoréen, roi des Juifs ». Enfin, dans les Actes des Apôtres, on retrouve cette appellation dans la bouche de Pierre et de Paul. Et c'est aussi de cette manière que Jésus se présente à Paul sur la route de Damas. « Je suis Jésus le Nazoréen que tu persécutes ». Et Paul lui-même va être dit chef de file de la secte des Nazoréens. Alors on a cherché à expliquer ce nom. On sait que les groupes baptistes du 1er siècle étaient appelés Nazoréens, ce qui veut dire observants. Mais tout le monde n'est pas d'accord pour voir là l'origine de ce nom. Comme les textes hébreux ne comportent que les consonnes et qu'on ne met pas les voyelles du mot, il peut y avoir donc plusieurs mots qui ont des consonnes semblables. Et l'un d'eux est Natsur, qui a donc les mêmes consonnes que Nazoréen. Natsur signifie garder, préserver. On trouve ces mots dans les chants du serviteur où ils décrivent ou bien le serviteur de Dieu lui-même, ou bien les rescapés qui vont former le petit reste d'Israël. Alors lisons deux de ces textes, d'abord le texte d'Isaïe 49, puis le texte d'Isaïe 42.
C'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations, afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est moi le Seigneur, je t'ai préservé et je t'ai destiné à être l'alliance de la multitude, à être la lumière des nations.
Jésus et ses disciples, est-ce qu'ils auront été perçus par leurs contemporains comme le type même du reste d'Israël, rentré d'exil, parce qu'il a été préservé par Dieu, et il est préservé par Dieu pour être le lieu, le milieu d'où va naître le Messie. En tout cas, c'est l'hypothèse du père Boismard, un spécialiste, dans sa synopse. Et il est aussi intéressant que cela rejoint, d'une certaine manière, la note de la Bible Hostie, la note de Matthieu 2, 23.
L'allusion semble être à la vie pauvre et humiliée de Jésus, annoncée par certains prophètes, et qui trouvait un excellent symbole dans le séjour à Nazareth, bourgade insignifiante et méprisée.
Oui, Nathanaël, dans le récit de Jean, chapitre 1er, Nathanaël dit à Philippe, « De Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon ?» En tout cas, ce terme de nazoréen semble bien dans la tradition d'humilité de Jésus et du choix qu'il fera d'être le rabbi des petits et des pauvres, comme l'évoque ce texte de Matthieu 11.
« Venez à moi, qui vous peinez et ployez sous le fardeau, et mettez-vous à mon école. Je te bénis, Père, d'avoir caché ton mystère aux sages et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Mais qu'y a-t-il d'historique dans ce texte d'aujourd'hui?
Oui, la question est souvent posée, et souvent on dit, ben non, ce sont simplement des textes symboliques. C'est une question sans doute pertinente, mais il faudrait se poser la question, qu'est-ce que l'on entend par historique? La Bible, la littérature de ces peuples orientaux, n'a pas la même façon de voir ce qui est historique que les modernes. Nous avons, nous, appris souvent l'histoire en retenant les faits datés, des chiffres, des lieux, voire des événements, qui le plus souvent d'ailleurs étaient des batailles, gagnées ou perdues. Mais la vie culturelle des peuples nous était peut-être moins familière. Alors, les grands récits, qu'on appelle les récits mythiques, bâtis autour de personnages héroïques, sont-ils moins vrais que cette histoire faite de détails que nous avons apprise? Est-ce qu'ils ne nous font pas découvrir à travers le héros les valeurs importantes qui ont donné sens non seulement à la vie de ce héros, mais à la vie d'un peuple? L'exactitude des faits, ça n'est pas toute la vérité. Ces faits ne disent pas forcément la vie profonde, intérieure, ce qui fait sens et ce qui fait vivre. Si Matthieu raconte l'enfance de Jésus à l'aide de ce qui fait le véritable vécu du peuple d'Israël, son histoire, c'est que Jésus sera pétri dans tout son être de cette histoire sainte où s'entrecroisent sans cesse les êtres humains, les Israélites qui ont constitué Israël et leur Dieu. Et l'aventure de cette communion entre Dieu et un peuple toujours infidèle et toujours converti, bien, c'est cette aventure qui explique au plus intime la personne même de Jésus de Nazareth. Jésus s'est identifié à cette histoire, il l'a portée dans ses tripes, elle a forgé, j'allais dire, la mémoire de son cœur au sens biblique, c'est-à-dire de l'intime de sa personne. Elle explique Jésus, et Jésus va aussi expliciter, réaliser, accomplir cette histoire. J'emprunte à Gabriel Ringlet, dans l'Évangile d'un libre penseur, les réflexions que nous allons entendre.
L'Évangile est un récit. Si on ne part pas de là, si on ne rappelle pas cette réalité élémentaire, que peut-on comprendre de Jésus, du christianisme? Dire de l'Évangile qu'il est un récit, un mythos, qui comporte donc des personnages, une intrigue, laisse entendre qu'il ne faut pas le confondre avec une doctrine, un système idéologique, un traité de morale. L'Évangile n'est même pas un recueil de valeurs.
Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas des valeurs dans l'Évangile, qu'il n'y a pas une morale, mais ce n'est pas d'abord cela. On ne peut pas comprendre, sentir, vivre Jésus sans le saisir dans son terroir, dans le lieu, dans le milieu dans lequel il a vécu, sans percevoir en lui toute l'histoire de ce peuple qui l'a vu naître, qui l'a fait naître. On ne comprend d'ailleurs pas plus Napoléon si on l'isole de son histoire et de celle de la France de son temps. Isoler une personne de son contexte, c'est rendre cette personne irréelle, hors du temps et de l'espace. On ne résume pas l'Évangile. L'Évangile, c'est d'abord et avant tout cette aventure de la personne de Jésus. Et tout catéchisme risque de faire davantage des déistes, c'est-à-dire des croyants en Dieu, que des chrétiens. Le chrétien ne se définit pas d'abord par les vérités dans lesquelles il croit, mais par son lien d'amour avec Jésus. Maurice Zendel disait qu'il n'y avait pas de morale chrétienne, mais une mystique chrétienne. Eh bien, cette mystique, c'est la chanson qui naît d'une liaison amoureuse avec Jésus, fils de l'homme et fils de Dieu. Il appartient donc aux disciples de Jésus de continuer à s'approprier ce récit de Jésus le Nazaréen, à le vivre pour le réaliser encore à travers chaque siècle, car il y a toujours des pharaons et des Hérodes, et leur cruauté et leur pouvoir dominateur continuent à défigurer la personne humaine. Il y a toujours et encore des massacrés, des exilés. Il y a de trop nombreuses Rachel sur les places de mai d'Argentine ou sur les charniers d'Europe ou d'Afrique qui pleurent et ne peuvent pas être consolées, car on leur a enlevé à jamais leurs enfants. Mais il y a aussi des messagers divins qui rappellent les fils de Dieu de leur Égypte de servitude pour les faire entrer dans la terre promise. Ces messagers ont pour nom Mandela, Elder Camara, Mère Teresa et tant d'autres. On a toujours besoin de Christ pour aller vers les brebis perdues, vers ceux que le pouvoir clérical, politique ou économique ont marginalisés. Il y a toujours la nécessité pour l'Église de Jésus de vivre en Galilée, aux frontières où se rencontrent les croyants de toute religion et les croyants en l'humain. Nous, disciples de Jésus du 21e siècle, transpirerons-nous l'évangile du 1er siècle et celui que ce récit nous permet de vivre et d'aimer.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
257-254-8750.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.